Chapitre 9. Quelques flocons clairsemés flottent dans l'air lorsque Nils Nordlund quitte le complexe du salon, laissant derrière lui l'immense tour de verre. L'angoisse lui serre l'estomac, mais il doit le faire, juste une fois, pour avoir une chance de sauver son mariage avec Tina. Il roule lentement à travers un quartier résidentiel, passe devant de grandes villas éclairées, et après quelques minutes, atteint la dernière propriété. Derrière la haie de Thuya, une lueur floue en forme d'éventail se dessine sur le sol, puis disparaît pour laisser place au noir total. Il ralentit et passe en plein phare. Dans la lumière, la route étroite semble se dérouler devant lui comme un tapis. Les nids de poules dans l'asphalte sont recouverts de glace scintillante. De part et d'autre du tunnel lumineux, l'herbe est gelée et les branches des arbres sont totalement nues. Il passe devant une aire de jeu à gauche, puis aperçoit les courts de tennis et leur haute clôture. Il longe un petit bâtiment couleur crème avec une terrasse vide et un kiosque à glace fermé. Sur la façade, une enseigne indique « Bienvenue au club de tennis d'Edsviken ». Le gravier crisse sous ses pneus lorsqu'il entre dans le parking désert et s'arrête. Nils regarde sa montre. Il est 21h50. L'angoisse accélère les battements de son cœur et le fait transpirer. Il se penche en arrière, ferme les yeux un instant pour tenter de se ressaisir et de maîtriser sa respiration. Peut-être que ça n'est pas fait pour lui. Peut-être qu'il lui faut simplement l'admettre et dire « Désolé, Michaela, mais ça ne marche pas », puis repartir. Mais il est là maintenant, et il va donner une chance à cette aventure. Peut-être est-ce le début de quelque chose de nouveau, un tournant dans sa vie. Il jette un coup d'œil par la vitre latérale. Le seul lampadaire qui fonctionne est situé derrière le petit bâtiment, partiellement caché par les arbres. Au-delà, il distingue des herbes hautes qui mènent au port de plaisance désert. Dans son dernier message, Michaela lui a donné des instructions détaillées. Il devait se garer exactement ici, éteindre les phares, s'installer sur le siège passager, abaisser le dossier au maximum, écouter l'album « Lonely and Blue » de Roy Orbison et l'attendre. « Ok », se dit-il, et il sort de la voiture. L'air est glacé. Sa respiration forme des volutes de vapeur. Il n'entend aucun bruit, si ce n'est le sifflement du vent à travers les roseaux. Nils contourne la voiture et voit un véhicule sombre garé près de la clôture du court de tennis. Il s'assied côté passager, referme la portière, abaisse le siège jusqu'à ce qu'il soit presque totalement horizontal, puis connecte son téléphone au Bluetooth de la voiture, sélectionne l'album qu'il cherche et lance la lecture. La musique envahit l'habitacle. La voix de l'homme chante que seuls les véritables solitaires peuvent comprendre ce qu'il ressent. Lorsque l'écran de son téléphone se met en veille, il porte son regard en direction des courts de tennis, vers l'autre voiture. Il se demande si elle est là depuis longtemps. Soudain, la flamme d'une allumette apparaît derrière les vitres teintées, puis le bout rouge d'une cigarette. Il distingue un visage de profil, des cheveux blonds soigneusement coiffés, une main pâle et un col en fourrure. Tandis que la femme tire sur sa cigarette, des volutes de fumée orange s'élèvent puis se dilatent en une sphère opalescente. Nils pense à la photo de profil de Michaela. Son visage était anonymisé, mais son corps, lui, était d'une beauté stupéfiante, envoûtante. Il est 22h10. Elle doit probablement être aussi nerveuse que lui. Ou peut-être veut-elle simplement finir sa cigarette. Il regarde vers le lac et les roseaux agités par le vent. Roy Orbison continue de chanter, évoque celle qui emporte son cœur en disparaissant. Nils détourne de nouveau son regard vers la voiture de Michaela et approche son visage du pare-brise, mais il ne parvient pas à distinguer si elle est toujours à l'intérieur. Sur le terrain de tennis, le filet tangue légèrement sous l'effet d'une bourrasque. Il perçoit un mouvement du coin de l'œil et tourne rapidement la tête. Quelque chose a traversé le halo de lumière de l'autre côté du bâtiment. Peut-être un oiseau ou un chevreuil. Il tend la main et baisse le son, observant la terrasse vide et les hampes des roseaux qui se balancent. Juste au moment où il se tourne de nouveau vers la voiture de Michaela, un coup léger est frappé contre sa vitre. La surprise le fait sursauter. Il espère qu'elle n'a rien vu et tente de sourire tout en cherchant maladroitement la poignée. La portière s'ouvre sur une silhouette sombre. Elle fait un pas en arrière tout en se tournant à demi vers les cours de tennis. « Il fait froid dehors, » dit-il, se décalant pour lui laisser de la place. Soudain, un bruit sourd le fait sursauter. Un choc brutal entre la tôle et le plastique. Le coup secoue la voiture. La lame scintillante d'une hache est plantée là où se trouvait son visage une seconde auparavant. Paniqué, il recule vers l'intérieur de l'habitacle, tirant ses pieds sous lui. La hache est à nouveau levée et frappe cette fois le siège, déchirant le rembourrage. Son portable tombe avec un bruit métallique sur le sol. Nils se faufile sur le siège conducteur. Tout le véhicule tangue lorsque le pare-brise vole en éclats. Des bouts de verre pleuvent sur lui alors qu'il ouvre la portière côté conducteur et s'effondre sur le sol. Il rampe sur les graviers et distingue la silhouette de la femme qui contourne la voiture. Il se relève, tombe en arrière et se cogne la tête contre une gouttière. Il lève la main gauche pour tenter de repousser la femme, mais elle frappe encore. Il se jette sur le côté et ressent un choc au niveau des poignets. La lourde lame se plante dans la paroi crème du bâtiment. En se relevant, il manque de trébucher sur un pot de fleurs en terre cuite, mais se rattrape. Son cœur bat à tout rompre. La voix de Roy Orbison résonne au loin. Il veut courir vers le lac, mais ses jambes sont trop faibles et il doit s'arrêter. Une chaleur liquide éclabousse sa hanche et sa cheville, tandis que la douleur irradie dans son bras. Il lâche un gémissement en constatant qu'il lui manque la moitié de la main. Le sang s'écoule par à coup. Il reprend sa course, passe devant le seul lampadaire éclairé. Il entend des pas derrière lui. Gémissant de douleur, il avance aussi vite qu'il peut et finit par s'engouffrer dans un champ de roseaux. « C'est Tina, » pense-t-il. « Elle l'a piégé, elle s'est déguisée et elle est là pour le mutiler, pour le tuer. » Les jambes tremblantes, il s'enfonce au milieu des tiges sèches qui craquent sous ses pieds. Il tente de protéger sa main ensanglantée sous son bras, mais le moindre contact le fait hurler de douleur. Un oiseau noir s'envole brusquement devant lui. Il change de direction. Derrière lui, les longues tiges se referment lentement, comme pour effacer ses traces. Il progresse. Il sent qu'il va bientôt s'effondrer. Il se dit qu'il restera allongé, immobile, jusqu'à ce qu'elle abandonne et disparaisse. Il garde sa main levée. Le sang chaud ruisselle le long de son bras. Les vagues de douleur sont si fortes qu'il manque de perdre connaissance. Son cœur bat trop vite. Il change de nouveau de direction, piétine une fine couche de glace qui se brise sous ses chaussures. Il se retourne et distingue la silhouette de la femme qui avance à travers les roseaux. Elle est bien trop près. Saisi de panique, il se dirige droit dans l'eau. La glace se brise sous chacun de ses pas. Ses pieds sont trempés. Il voudrait marcher jusqu'au petit bateau amarré au ponton. L'eau froide enserre ses mollets. La femme le suit en soulevant de grandes gerbes d'eau, la hache sur l'épaule. Il sort du champ et voit maintenant les lumières de l'autre rive du lac se refléter sur la surface noire. Il s'arrête, haletant. L'eau lui arrive maintenant au-dessus des genoux. L'air glacé lui brûle les poumons. Il appuie sa main droite contre la couche gelée, fragile comme du verre. La femme approche. Il sait qu'il doit continuer, mais il n'en a plus la force. Les vagues formées par ses pas font déborder l'eau rouge sur la glace devant lui. Il a à peine le temps de commencer sa prière.